Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour cette série d'été consacrée aux grands reporters, aux écrivains voyageurs, à ceux qui inspirent aujourd'hui aussi beaucoup d'autres journalistes ou reporters. Vous pouvez suivre cette série d'été avec la série d'émissions que vous pouvez retrouver sur notre site internet revueconflit.com ainsi que sur l'ensemble des podcasts, des plateformes de podcasts, et puis également sur notre site internet les derniers numéros de Conflit que vous pouvez acheter via notre boutique en ligne en format numérique et en format papier. Conflit, dont les podcasts ont été classés parmi les principaux podcasts de France par la plateforme de production Cosa Vostra. C'est une très belle reconnaissance du travail qui est effectué et je vous remercie de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter. Cette semaine, nous partons sur les pas d'un des grands reporters, à la fois reporter, journaliste, écrivain, dont la vie elle-même est un roman. Il s'agit de Joseph Kessel. Joseph Kessel dont la vie se mélange avec son œuvre. Et pour en parler, je reçois Olivier Weber. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vous-même...
Merci à vous.
Vous êtes vous-même reporter, vous êtes un grand connaisseur de l'œuvre de Joseph Kessel. Vous avez publié en 2021, si je ne me trompe pas, un dictionnaire amoureux de Kessel.
Oui, c'est 2019 même.
2019. Ah, alors, je l'ai lu en 2021, mais donc il était un peu plus ancien.
D'accord.
Et comme tous les dictionnaires amoureux, eh bien, c'est un auteur qui fait découvrir une passion ou un autre auteur, et donc ça se lit comme tel. Enfin, c'est cette fameuse collection chez Plon, à laquelle je ne peux que renvoyer nos auditeurs, et puis évidemment les très nombreux romans et livres de Joseph Kessel, dont plusieurs ont été réédités chez Talendier, qui a fait une collection sur ses reportages. Première question, Olivier Weber, sur Joseph Kessel, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ou qu'est-ce que vous préférez, si on peut préférer des choses chez Kessel? Est-ce que c'est plutôt le journaliste, le romancier, l'homme également? Quelle est la partie qui vous touche le plus?
Oui, merci, oui, c'est une vaste question. Est-ce qu'en fait, vous l'avez dit, Joseph Kessel a eu mille vies, sa vie ou ses vies sont des romans, et plusieurs romans, et il y a bien sûr le journaliste, comme vous le disiez, le scénariste, l'écrivain, l'académicien, le romancier, l'aventurier, le correspondant de guerre, l'aviateur, le résistant, et ce que je préfère peut-être, c'est le mélange entre écrivain et reporter. Et on peut le prendre dans les deux sens, reporter et écrivain. Son petit frère en littérature, c'était Romain Gary, qui était juif comme lui, d'origine slave comme lui, enfin ayant vécu dans les pays slaves et niçois d'adoption. Et Gary a fait le parcours inverse, il a d'abord été écrivain, et puis à la fin de sa vie, pour la presse américaine, puisqu'il parlait très bien l'anglais, il était grand reporter, mais son rêve, c'était d'avoir été grand reporter sur les traces de Kessel. Et Kessel, il a commencé par le journalisme et le grand reportage, assez jeune d'ailleurs, bien qu'il était à 18 ans aviateur pendant la Première Guerre mondiale, mais du reportage, il est allé vers le roman. Et pour moi, c'est naturel, parce qu'à un moment, on a tellement de choses en tête, on rencontre tellement de personnages fabuleux, parfois pas forcément connus au contraire, on connaît soi-même tellement d'aventures qu'on a envie de les écrire. Et quelquefois, il ne faut pas 3 pages, il faut 300 pages, et quelquefois, il faut dépasser le réel, on passe à la fiction. Donc, c'est un petit peu cette symbiose entre l'écrivain et le reporter. Et je dirais que ça va très bien sous vocable aventurier. Joseph Kessel, pour moi, je crois d'ailleurs que c'est le premier ou le deuxième livre que j'ai lu quand j'étais enfant. Il y a eu Mermoz, mais surtout Fortune Carrée, qui avait beaucoup impressionné aussi Pierre Schoendorfer. Vous savez, le grand cinéaste qui allait devenir, en fait, le caméraman d'abord de Kessel. Et Fortune Carrée, c'est un livre d'aventure et c'est un peu la vie de Joseph Kessel aussi.
Alors vous évoquez l'aviateur Joseph Kessel. Il a été parmi les pionniers de l'aéropostale. Il a été un grand ami de Mermoz. Kessel est un homme d'action parce que l'aéropostale à l'époque de Mermoz et de Kessel, c'est dangereux. Il y a des morts, il y a des difficultés. Il va au combat. En tout cas, il va affronter l'aventure.
Absolument, absolument. En fait, c'est davantage un chroniqueur de l'aéropostale qu'un pionnier. Il a suivi ses amis, Jean Mermoz en particulier, qui est mort très jeune, à 36 ans d'ailleurs. Kessel s'en est difficilement remis, parce que pour lui, c'était c'est un frère, c'était une amitié extrêmement solide, et puis Saint-Exupéry et d'autres, mais lui-même, effectivement, pendant la guerre, première guerre mondiale, puisqu'il est né en 1898, vous rendez compte, il avait même pas 20 ans quand la guerre s'est terminée, il s'est engagé, il était un moment brancardier, puis après il est devenu assistant navigateur, et puis évidemment, comme les pilotes et les fameux as des as mouraient très vite, quelquefois il y avait un sur trois ou un sur quatre qui mourait, eh bien on les remplaçait par de jeunes aspirants, de jeunes navigateurs, de jeunes mécaniciens, et Kessel en a fait partie. Ça donnait d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle L'équipage. Pour lui, c'était de l'aventure, c'était aussi d'aventure humaine surtout, parce que il a dit un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est cette fratrie, cette fraternité lorsqu'on revenait du combat, y compris d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on retrouvait les autres pilotes ou les autres membres de l'aviation, et il y avait une sorte d'esprit chevaleresque, j'allais dire, qu'il a toujours tenu, et jusqu'à la fin de sa vie, cette parole d'homme, ce sens de l'honneur, ce sens de l'amitié ont habité Joseph Kessel. Donc lui, c'était un chroniqueur de l'aéropostale qui a pris des risques, qui est resté vivant, mais vous savez, il a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de morts autour de lui, dont dès ses premières semaines en tant qu'aviateur dans les années 1917.
Vous évoquez l'esprit chevaleresque, l'amitié également, quelque chose qui est très important chez Kessel, l'amitié avec Mermoz et l'amitié avec Maurice Druon, son neveu, une forme d'amitié aussi avec son frère Lazare, dont le décès brutal l'a profondément marqué. L'amitié est quelque chose qui est fondamental dans la vie de Kessel et dans son œuvre.
Oui, absolument, et c'est ce qui l'a toujours fasciné dans les reportages et dans les romans, puisqu'il a voulu pousser l'aventure littéraire à exprimer cela par des romans, à rencontrer donc des gens de parole, des gens d'honneur. Ça peut être des guerriers, ça peut être des écrivains, ça peut être des amis ou des gens de la vie de tous les jours, ça peut être aussi des bandits. C'est quelqu'un, Joseph Kessel, qui aimait fréquenter la pègre et les bandits, que ça soit à Beyrouth, que ça soit à New York, que ça soit à Berlin d'ailleurs. Ces membres de la pègre de Berlin l'ont beaucoup renseigné dans les années 30, lors de la prise du pouvoir, surtout en 1933 par Hitler, sur ce qu'allait devenir l'Allemagne, y compris sur l'émergence des camps de concentration. Ça fait d'ailleurs un superbe roman, parce qu'on n'a pas assez lu les reportages de Kessel sur Hitler et sur ce premier camp de concentration qui s'appelait Dachau, donc il en a fait un roman qui s'appelle La passante du sans-souci. Oui, une fraternité, des histoires d'hommes, des amitiés très fortes, et c'est pour ça aussi qu'il a aimé l'Afghanistan, parce que en Afghanistan, il y a le sens de la parole donnée, il y a l'amitié, quand on est ami avec un Afghan, c'est pour la vie. Et donc, Kessel, toute sa vie, a cherché, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, des amitiés, c'est pour ça qu'il avait autour de lui des jeunes amis. Vous parliez de Lazare, qu'on appelait Lola, son petit frère, et ils étaient trois dans la fratrie, donc trois garçons, Joseph, Georges et Lazare. Et lorsque Joseph rentre de la Première Guerre mondiale, donc il est décoré d'honneur, il rentre de la guerre de 14-18, il a en plus été engagé sur le front russe de Vladivostok lorsqu'il y a eu la guerre des Russes blancs contre les Russes rouges de Lénine, sauf qu'en Sibérie, il n'y avait pas de guerre, donc il a fait un tour du monde. Et quand il est revenu, il rentre au journal Des Débats, qui est un journal assez connu à l'époque, qui a son siège à côté du Louvre, et il déjeune un jour sur le boulevard Saint-Michel à Paris avec son petit frère Lola. Le soir même, il devait répéter une pièce de théâtre sur le prince de Condé au théâtre de l'Odéon, puisque le petit frère Lazare, donc Lola, son surnom, était rentré à la Comédie Française. C'était un comédien qui était talentueux, que Colette, la fameuse écrivaine, avait déjà repéré et sur lequel elle avait écrit des articles. Ils déjeunent ensemble, Joseph Kessel, l'aîné, rentre à son journal l'après-midi, et la police l'appelle. Le commissaire du 5e arrondissement de Paris l'appelle en disant « Monsieur Kessel, votre petit frère, Lazare Kessel, est mort. » Et Joseph Kessel dit « Mais c'était pas possible, je viens de le quitter, on a déjeuné ensemble. » Et en fait, le petit frère s'était bien suicidé l'après-midi pour une histoire d'amour, pour une histoire aussi de rejet familial de la part de son père, puisqu'il avait eu une affaire hors mariage, on va dire. Il attendait un enfant hors mariage. Et on ne peut pas expliquer l'œuvre du grand frère, l'œuvre de Joseph Kessel, sans comprendre cela toute sa vie. Joseph Kessel, tenez-vous bien, portait sur les épaules la souffrance du survivant, le poids du coupable. Et cette culpabilité, elle était, comment dirais-je, dostoïevskienne. Et toute l'œuvre de Kessel, surtout romanesque, s'explique à travers cela, c'est-à-dire la faute, le remords, la culpabilité.
Vous évoquez le reportage et la littérature. On a l'impression que Kessel a eu la chance d'être toujours au bon endroit au bon moment. Il est en Catalogne et il y a une révolution. Il en fait un magnifique reportage. Il est au Kenya et il y a la révolte des Momos et ça donne notamment la piste fauve. Il est au moment de la création de l'État d'Israël. Il a le passeport 001. Finalement, non seulement il a traversé le XXe siècle, mais il a toujours été, semble-t-il, au bon moment, là où il fallait être pour faire des reportages.
Absolument. Alors pourquoi? Parce que, enfin, il y a deux raisons. D'abord, c'était quelqu'un de surdoué, qui était intuitif, comme son grand frère en littérature, Jack London, qui l'a inspiré. Jack London, qui a écrit 80 livres et qui est mort à 40 ans. Et c'était des êtres surdoués. Et la littérature a permis d'exprimer ses dons, qui étaient des dons non seulement intellectuels, mais sensoriels et émotionnels. Et donc, Kessel avait une sorte d'intuition, de flair aussi, sur les guerres, sur les conflits, sur les rapports entre les hommes, des rapports intrasociétaux, pardon, ou entre pays. Et puis, deuxièmement, c'est le hasard. Mais vous savez, c'est quelqu'un du métier qui dit que il y a pas de hasard. Le hasard est voulu, en fait, et aide-toi. Le ciel t'aidera, comme le dit très bien le proverbe. Et donc, à force de sillonner le monde, à force, de multiplier les voyages, Kessel s'est trouvé donc effectivement au bon moment, au bon endroit. Et ça lui a servi évidemment pour non seulement ses reportages, mais aussi ses romans, parce que il a voulu colporter et extrapoler cette littérature du réel vers la littérature du fiction. Je suis convaincu, et c'est aussi une des grandes leçons de la lecture des œuvres de Kessel et de bien d'autres, surtout des grands reporters qui sont passés donc à l'état de romancier. Ben, je pourrais citer par exemple Jack London comme tout à l'heure, mais aussi Hemingway, mais Malaparte aussi, mais Steinbeck et d'autres, Dos Passos aussi. Donc on est passé à la littérature parce que décrire le réel par la simple relation des faits ne suffit pas. Et donc, dans les romans de Kessel, vous avez ce réel-là, vous avez ces guerres, et vous avez raison de rappeler aussi qu'il a reçu le premier visa 001 en 1948, parce que lorsqu'il apprend que Ben Gourion donc proclame l'indépendance le 15 mai 1948, qu'est-ce que fait Kessel? Ben, il saute dans un avion avec des marchands d'armes français, juifs français, et donc par saut de puce, il se retrouve en Italie, à Brindisi, à Chypre, et il arrive au-dessus de l'aéroport de Tel Aviv. Sauf que le premier jour de la proclamation de l'État d'indépendance par Ben Gourion, eh bien, la première guerre israélo-arabe est déclenchée. Et donc, l'avion est détourné sur la grande ville du Nord, qui s'appelle Raïfa. Et là, au bout de la piste, le long de la mer, sortent d'une guérite, donc, des jeunes douaniers, des militants de la Haganah, donc, la nouvelle force israélienne de défense qui remplace les colons britanniques et qui lui remettent à Monsieur Kessel, bienvenue en Israël, le visa 001. Donc là, oui, effectivement, c'est à la fois du hasard et de la chance provoquée.
Quel est son rapport à la littérature russe? Vous l'avez dit, il est né en Argentine, mais enfin il est d'origine russe. Les romans russes l'ont beaucoup influencé. On pense aussi à Romain Gary, qui ont contribué à vivifier, à redonner une importance à ce style de roman qu'est le roman russe.
Oui, alors il y a ce drame personnel dont je parlais tout à l'heure avec Lazare, son petit frère suicidé, qui fait que il s'empare du roman, mais dans une veine justement dostoïevskienne. Et c'est quelqu'un qui a lu très jeune, lorsqu'il était encore élève au lycée Masséna de Nice, les auteurs russes, et il faisait des contes, et j'ai pu me les procurer, ces contes, sur des grandes feuilles de papier, à l'écriture assez serrée, des contes de 4 à 6 pages, et donc c'est l'équivalent de 15, 20, 30 pages en feuillets normaux, et c'est magnifique, c'est vraiment inspiré du style des Russes. Il lisait Tolstoï, Guerre et Paix, très très souvent. Il a dit moi-même, j'ai plus lu Tolstoï que Tolstoï lui-même, et de Dostoïevski bien sûr, et donc il était habité par cette âme russe. Il est né à Santa Clara en 1898 en Argentine, dans une colonie juive qui a été donc fondée par le baron Hirsch, où son père, donc le père de Kessel, Samuel Kessel, était médecin. Mais la vraie âme de Kessel était la Russie. Et d'ailleurs, son père retourne sur les bords de l'Oural à Samara, et lorsque Joseph Kessel est enfant, et Kessel dit, mais d'un côté de la rive de l'Oural, il y avait l'Europe, et de l'autre côté de Samara, il y avait les routes de la soie, les caravaniers, les chameaux, et pour moi, c'était une nouveauté que de voir des chameaux, et j'ai vu des chameaux, disait-il, et des caravanes avant d'avoir vu des voitures. Et donc voilà, donc cette âme russe est aussi l'âme des steppes, c'est l'âme des caravanes, c'est l'âme des routes de la soie. Donc ça l'a habité, et c'est pour ça aussi qu'il a aimé les steppes d'Afghanistan. Et c'est vrai qu'il y a un côté romancier russe dans l'œuvre de Joseph Kessel.
Alors vous évoquez l'Afghanistan, c'est un pays que Kessel a parcouru, vous-même vous l'avez beaucoup parcouru, vous avez connu le commandant Massoud, et je voulais vous poser une question sur le rapport entre la littérature et la connaissance que l'on peut avoir d'une société. Il se trouve que j'ai lu les Cavaliers l'année dernière, et c'était au moment de la prise de Kaboul, enfin j'ai terminé le roman au moment où les talibans sont rentrés dans Kaboul. Comment, d'après vous, la littérature peut donner une vision de la réalité qui est peut-être plus réelle qu'un article de géopolitique, une analyse, en tout cas qui nous permet de rentrer dans la psychologie d'un peuple, dans la compréhension de ce qu'est une culture, de ce qu'est une mémoire ou une histoire?
Alors d'abord, ça dépend du talent du romancier, qu'il soit local ou un romancier occidental. Et puis deuxièmement, c'est le philosophe Michel Serres qui disait qu'un roman vaut 100 thèses ou 100 thèses d'État. Et c'est vrai que dans un roman, avec un personnage, vous en avez plusieurs. C'est vrai qu'un roman vous renvoie à des réalités conscientes et inconscientes. C'est vrai qu'un roman, donc venant d'un écrivain talentueux, vous offre plusieurs niveaux de lecture. Et quand on relit, c'est la marque des grandes œuvres d'ailleurs, un roman à différents âges de sa vie, eh bien on a une lecture différente, on a des niveaux de profondeur différents, et les facettes des personnages, qui sont très souvent des personnages ambivalents, encore une fois, dans les grands romans, vous offre, comment dirais-je, des saillants, des aspects, des visages, des émotions, des comportements aussi différents. Donc oui, je crois profondément, et je voyage beaucoup encore de par le monde, maintenant je suis écrivain, je ne suis plus grand reporter, mais je retourne souvent sur le terrain, et je lis bien sûr des essais, bien sûr des articles, bien sûr des thèses, mais aussi et d'abord des romans, parce que vous avez, comme vous le disiez, une explication du réel, à travers de l'intuition, à travers de l'anticipation, à travers de la déduction, à travers de l'anticipation, d'une manière non pas scientifique, mais totalement subjective. Et qu'est-ce que nous sommes, sinon des sujets, même dans le journalisme, vous savez, je pense, en tout cas c'est un point de vue personnel, qu'il n'y a pas d'objectivité normative, ça serait dangereux, nous sommes tous des sujets. Ce qui compte dans le reportage, dans la relation des faits, c'est donc l'honnêteté, on va dire. Et le roman vous permet aussi d'aller plus loin que cette simple vision des choses, et donc oui, je crois beaucoup en cela, c'est-à-dire lire des romans avant de partir dans un pays pour comprendre l'âme, pour comprendre aussi, au-delà de l'âme d'un peuple, au-delà de la psyché, comprendre un conflit, comprendre des rapports entre ethnies, etc. Donc lui, par exemple, pour l'Afghanistan, les cavaliers, bah, c'était une source d'inspiration incroyable. Je crois qu'on est beaucoup à être parti à cause de ce livre. Mais je vais vous livrer une anecdote, parce que les cavaliers, je l'ai lu très jeune, donc l'Afghanistan faisait partie de mon monde fantasmé. Et Kessel l'a découvert assez tard. Kessel a découvert ce pays alors qu'il avait 58 ans, en 1956, avec précisément ce jeune caméraman des armées qui sortait des camps de la mort du Viet Minh au Vietnam, puisqu'il était prisonnier après avoir été parachuté sur Dien Bien Phu pour l'école photographique des armées, c'est Pierre Schoendorfer. Donc ils partent ensemble, et Kessel se révèle en fait lui-même à la beauté, à la profondeur, à l'histoire tragique et en même temps très belle de l'Afghanistan. Moi j'ai lu Les Cavaliers beaucoup plus jeune, enfin je suis allé en Afghanistan beaucoup plus jeune en ayant lu Les Cavaliers, et je suis retourné un moment, à l'âge de 30 ans, avec deux livres, dans la collection blanche de Gallimard, ce sont Les Cavaliers donc de Kessel d'une part, deuxièmement Le Roi Lear de Shakespeare. Et je me suis retrouvé dans une petite bourgade totalement encerclée par les islamistes, et je n'arrivais plus à sortir de cette bourgade qui était encerclée, donc assiégée, défendue par des hommes du commandant Massoud. Et je me suis dit, ben, je vais rester ici peut-être 6 mois. Et j'ai arrêté de lire Les Cavaliers. Pourquoi ? Parce que c'est un roman, où il n'y a que des cavaliers, donc du fameux Bouskashi, le jeu afghan, et ça donnait pour moi presque tragique. Je me suis dit, mais ce sont les gens qui m'assiègent, ce sont les gens qui attaquent cette bourgade, qui sont représentés dans le livre. Donc j'ai lu en fait une dizaine de fois Le Roi Lear de Shakespeare. Voilà, mais ça c'est, je referme la parenthèse. En tout cas, effectivement, on ressent toute cette fierté, cet honneur, ce code de l'honneur des Afghans à travers le jeu du roi, donc c'est-à-dire le Bouskashi, vous savez, cette équipé avec deux équipages à cheval de type de cavalier afghan qui se dispute le cadavre d'une chèvre décapitée. Ça peut paraître violent, mais voilà, c'est ça le Bouskashi, et je peux vous dire que c'est violent, et je peux vous dire qu'il y a souvent des fractures.
Quel en est-il de la manière dont Joseph Kessel écrit? En le lisant, on a l'impression que les mots, les phrases lui viennent extrêmement facilement, tout est fluide, tout est bien choisi. Il écrit beaucoup aussi, donc il devait probablement avoir un débit d'écriture assez important. Mais est-ce qu'on sait s'il reprenait ses textes, il est retravaillé un peu à la Flaubert qui allait peser chaque virgule de chaque mot, ou si au contraire les choses lui viennent beaucoup plus facilement?
Oui, beaucoup. Alors, je vais faire une réponse un peu ambivalente. C'est quelqu'un qui a des facilités d'écriture, évidemment. C'est quelqu'un, deuxièmement, qui a écrit très jeune, avec Georges en particulier, lorsqu'il était au lycée Masséna, mais aussi avec son autre frère, Lazare. Donc, des contes, des pièces de théâtre. Ils avaient eux-mêmes une petite équipe de théâtre, donc, à Nice. Et tout cela avec beaucoup de talent. Donc, ce sont des frères qui étaient totalement désinhibés, doués, et très tournés vers la littérature. En même temps, Kessel, comme beaucoup d'écrivains, avait aussi l'angoisse de la feuille blanche. Peut-être moins, enfin c'est pas peut-être, pas du tout dans le journalisme, avec la pression, avec l'adrénaline du papier à rendre le soir même, etc. Kessel rendait des reportages en mer Rouge, en Abyssinie, vous citiez aussi La Piste Fauve au Kenya, qui était donc avant un livre, une série de reportages, pareil sur la piste des rubis en Birmanie, c'était presque des romans, soit dans les pages de François et d'autres journaux. C'était du 100 000 signes, 150 000 signes, c'est-à-dire, ça ne veut rien dire pour vos auditeurs, mais c'est la moitié d'un livre facilement. Donc il n'avait plus qu'à réécrire après, il avait déjà eu cette facilité d'écriture à cause du deadline, à cause de la pression du bouclage du journal qui lui exigeait donc les papiers, et qu'il écrivait souvent en retour, mais souvent sur le terrain. Alors moi j'ai pu consulter deuxièmement donc ces manuscrits, tant d'articles que de romans. Je peux vous dire que c'est surraturé, c'est écrit tout petit parce que il reprend cela à la main, à la plume, sur souvent des tout petits carnets ou des petites feuilles qui sont à la moitié d'une page normale, et je plains la secrétaire qui décryptait cela pour le retranscrire sur une machine à écrire, parce que Kessel n'écrivait pratiquement jamais, au grand jamais, sur une machine à écrire, contrairement à Hemingway, qu'il avait revu en Espagne, et donc voilà, c'était effectivement sursaturé. Et ça exprime peut-être moins une angoisse de la page blanche que un besoin de rigueur, de discipline, une exigence d'écrivain que d'être quasiment dans la perfection de la ligne et du chapitre.
Kessel est aussi quelqu'un qui a un rapport un peu compliqué, je dirais, à sa terre. Il est d'origine russe, il est né en Argentine, il a beaucoup voyagé, c'est une sorte de nomade, et en même temps il se sent profondément français, il écrit en français, il a été membre de l'Académie française, il a participé à la Première Guerre et à la Deuxième, dans la Résistance. Quelle est sa manière de vivre ce rapport, on dirait, entre le national et l'international, entre le pays de la France et puis son métier de nomade, de journaliste, qui l'amène à rencontrer beaucoup d'autres peuples et populations?
Oui, alors c'est très drôle parce que quand il a été reçu à l'Académie française en 1962, il dit « Mais qu'est-ce que vous accueillez ? Vous accueillez un métèque qui plus est qui a du sang juif dans ses veines. » Et il se définissait ainsi lui-même, nomade permanent. Moi j'ai écrit un essai sur lui, qui est un essai littéraire, qui n'est pas une biographie, qui s'appelle « Kessel, le nomade éternel », quelqu'un qui avait le voyage dans le sang, mais aussi ce côté multiethnique, on va dire. C'était la terre qui lui appartenait, ou lui appartenait à la terre, mais il avait du mal à se définir aussi, comment dirais-je, ressortissant d'une nationalité. En tout cas, en même temps, il était profondément français, un petit peu à l'égard de son petit frère dont je parlais tout à l'heure en littérature, qui était Romain Gary, qui disait « Je n'ai pas une seule goutte de sang français dans les veines, mais c'est la France qui coule dans mes veines. » Et Kessel aurait dit à peu près la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui était un grand voyageur devant l'éternel, qui avait quand même une passion, au départ une relation compliquée, mais une passion pour Israël, où il a été donc très jeune. Et en même temps, par rapport à la France, quand il y a eu la nationalité française, il était heureux comme tout, parce que, évidemment, ce n'était pas acquis. Il arrivait d'Argentine et après de Russie, après avoir fait un saut à Nice, il n'a pas eu la nationalité française tout de suite, mais en tout cas, il était très fier d'être devenu ressortissant français et d'être rentré, comme vous le disiez, à l'Académie. Alors, pour la petite anecdote, c'est assez drôle, parce que son éditeur, Gaston Gallimard, voulait pas. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? J'ai créé la NRF, donc la Nouvelle Revue Française avec André Gide, justement pour me défausser de l'Académie. Et Kessel, quand même, voulait y aller sur la demande insistante du grand écrivain François Mauriac qu'il avait adoubé. Et vous savez ce qu'il a fait, Kessel, pour être convaincu d'y aller ou pas? Il est allé voir la pègre de Montmartre. Il est allé donc passer quelques dîners avec eux. Je peux vous dire que c'était quand même bien arrosé, compris la vodka. Et les bandits, les marlous, les malfrats de Montmartre lui ont dit « Mais évidemment !» Et évidemment, vas-y, rentre à l'Académie et on sera très fiers de toi. Et donc, il y avait aussi quelque part, en rentrant à l'Académie, pour Kessel, une reconnaissance de sa dette à l'égard de la République qu'il avait accueillie, qui lui avait permis de faire des études à Nice, d'abord au lycée Masséna et puis ensuite des études de droit. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qui était profondément reconnaissant pour sa nouvelle terre d'accueil.
Le fait qu'il rentre à l'Académie n'allait pas de soi, même s'il a été aidé par François Mauriac, parce que il n'était pas considéré comme un écrivain par certains, il était trop journaliste, trop reporter. Est-ce que l'entrée de Kessel à l'Académie, ce n'est pas aussi une entrée du grand reportage ou du journalisme, et donc celui-ci étant reconnu comme un genre littéraire à part entière?
Oui, absolument, parce que évidemment les détracteurs de Mauriac et de Kessel, Mauriac qui voulait que Kessel rentre, disait « Mais Mauriac et ses amis vont faire rentrer le loup dans la bergerie ». Et en même temps, Mauriac, qui est un chroniqueur, il suffit de voir ses fameux bloc-notes et tous les écrits, les éditoriaux qu'il a fait avec beaucoup de talent, qu'il a publié donc dans le Figaro. Mauriac était aussi journaliste, chroniqueur, polémique, éditorialiste. Eh bien, effectivement, c'est la consécration d'un genre littéraire à part entière, mais en même temps, il existe depuis longtemps. Victor Hugo a été aussi chroniqueur, etc. Les choses vues de Victor Hugo sont des œuvres littéraires en soi, et donc c'était un moyen de forcer un petit peu la main des conservateurs de l'Académie pour faire entrer un journaliste et grand reporter, mais aussi pour prouver qu'il y a des ponts entre ces deux genres que sont la littérature du réel, donc le reportage, l'essai, le document et l'écrit journalistique, et deuxièmement la littérature de fiction avec le roman. Et donc Kessel est un exemple talentueux du passage de l'un vers l'autre.
Alors aujourd'hui, on peut lire les œuvres de Kessel en entier, enfin du moins tout ce qui a été publié, mais c'est aussi une œuvre qui évolue entre ses premiers écrits de jeunesse et puis les œuvres de la maturité. Est-ce qu'il y a eu des thèmes marquants dans les différents épisodes de la vie de Kessel, des choses qui reviennent ou qu'il aurait abordé dans sa jeunesse et un peu moins dans la vieillesse? Enfin, qu'en est-il de son histoire avec sa propre prose, avec sa propre littérature et donc de l'évolution des thèmes qu'il a abordé?
Ben, je dirais que lui était fasciné par les personnages d'aventure, et les thèmes qui reviennent, c'est la loyauté, donc l'amitié en fait, l'honneur, l'aventure, l'amour aussi, l'équipage, qui est le premier roman, dit-on, de l'aviation moderne en 1923, il avait 25 ans, Kessel, quand il a édité, ça fait 250 000 exemplaires. Tout d'un coup, c'est la notoriété absolue, française, mais aussi dans les pays francophones et à l'étranger, pour ce jeune écrivain, journaliste, qui est un ancien aviateur. Et d'ailleurs, De Gaulle, lorsqu'il l'a accueilli 20 ans plus tard à Londres, en tant que combattant de la France libre, Kessel, qui était résistant à Nice, avait dû être exfiltré par l'Espagne, parce que les résistants lui avaient dit « Écoute, tu es découvert, la Gestapo arrive, tout le monde sait que tu es juif, faut que tu partes. » Et Kessel, arrivant à Londres, rencontre De Gaulle, qui a lu l'équipage, et qui ne veut surtout pas que Kessel aille se battre, en disant « Mais si vous allez vous battre pour des missions avec l'aviation de la France libre, vous allez mourir, donc j'ai besoin de vous, et vous allez faire un livre sur la résistance, ça fait l'armée des ombres. » Et dans l'équipage, pour moi, c'est moins un roman sur l'aviation que l'histoire d'un trio avec deux pilotes qui sont amoureux de la même femme sans le savoir. Et donc, c'est aussi un roman justement sur la loyauté, sur la tromperie, sur la trahison à la fin. Et ce sont des thèmes qui reviennent souvent chez Kessel. Au-delà de l'aventure, c'est le sentiment, c'est l'émotion. Et pour moi, il y a trois romanciers, sur lesquels j'ai écrit des biographies ou plutôt des essais littéraires. C'est Joseph Conrad, Joseph Kessel et Jack London, qui ont des rapports à l'aventure, aux mers chaudes, à l'exotisme, au reportage. Et en fait, pour moi, je les ai appelés les écrivains du malentendu. Pourquoi ? Parce qu'on les considère comme étant des écrivains, par exemple animaliers pour Joseph Kessel, ou de l'enfance, avec l'appel de la forêt pour Jack London, avec le lion pour Joseph Kessel, alors que pour tous les trois, l'exotisme, l'aventure ne sont que des décors de façade. La vraie aventure pour eux, pour ces trois grands romanciers, c'est l'aventure intérieure, c'est le tourment. C'est la culpabilité dont je parlais tout à l'heure de Kessel, c'est aussi la culpabilité de Conrad, qui était un capitaine de la marine marchande et qui a écrit Lord Jim sur un capitaine, un jeune capitaine, qui s'en veut toute sa vie d'avoir abandonné son bateau avec des passagers à bord alors que se déclenchait un incendie. Et Kessel, c'est donc un écrivain de malentendu, et l'aventure, il veut la vivre, il l'a vécu évidemment, soit par le reportage, soit pour des livres, d'abord pour des reportages, parce que quel magnifique métier d'aventure que le métier de grand reporter, mais pour écrire un peu plus des livres. Et lui effectivement, ce qui l'intéressait, ce sont les ressorts de l'âme humaine, ce sont les tourments de la vie intérieure. Et c'est Stevenson, le grand écrivain, qui a beaucoup inspiré ces trois auteurs, qui parlait du grand dehors. Et bien pour Kessel, j'appellerais ça l'aventure du grand dedans.
Alors, vous avez évoqué L'Armée des Ombres, c'était après passé au cinéma, c'est devenu un des grands films français avec notamment Lino Ventura. Est-ce que ce passage de la littérature au cinéma est quelque chose de bien vu par Kessel? On sait que certains écrivains n'aiment pas voir leurs œuvres passer à l'écran, pour eux c'est une trahison. Quel est le rapport de Kessel au cinéma, notamment à travers ses œuvres?
Alors, Kessel était assez intelligent pour laisser libre cours aux réalisateurs qui s'emparaient d'un de ses livres, dont Jean-Pierre Melville pour L'Armée des Ombres, avec un tournage qui était très compliqué, parce qu'entre Melville, dont le vrai nom était Grombach, et Lino Ventura, ça se passait par avocat interposé à la fin du tournage de L'Armée des Ombres. Mais Kessel lui-même avait été scénariste dans les années 30 à Hollywood, grâce à un ami qui était comme lui d'origine juif russe, c'était Anatoly Litvak, qui lui ouvre les clés de Hollywood. Et en fait, Kessel était très déçu par Hollywood, ce règne de l'argent, du fric, du strass, etc. Et donc, il est reparti un petit peu dépité de Hollywood après avoir écrit plusieurs scénarios. Mais c'était quand même un des écrivains les plus adaptés, enfin, écrivains français les plus adaptés au cinéma. Le cinéma qui était un cinéma montant dans les années 30, puisque on était en train de passer du muet au cinéma parlant. Et Kessel, qui avait fait donc du théâtre avec ses deux frères, qui avait écrit aussi des pièces de théâtre, était quelqu'un pour lequel le scénario était relativement facile. Il comprenait ce que c'était que les dialogues, et comme il avait une grande capacité d'imagination, il imaginait évidemment ce que pouvait être un scénario. Et donc ça a donné L'Armée des Ombres, mais ça a donné aussi plein d'autres films qui ont été tirés de ses romans. Bah, on peut parler de La Passe-temps du sans-souci, qui est le dernier film de Romy Schneider, qui avait insisté pour que ce film soit tourné, et alors qu'elle venait de perdre son fils David, qui s'était donc empalé sur une grille, malgré sa douleur, elle voulait tourner ce film, incarner la passante du sans-souci, l'héroïne, parce que c'était un film qui parlait de l'Allemagne nazie et des camps de concentration, et elle, l'héroïne principale du film, allemande, recueillait un jeune juif allemand qui s'appelait Max, et donc ça fait partie donc des grands romans de Kessel.
Il y a aussi un rapport chez Kessel aux animaux. Alors le cheval revient régulièrement, évidemment, principalement dans le roman des Cavaliers avec les Chopendos. Il y a le lion, qui a d'ailleurs donné le cas d'un livre généralement lu par les enfants, mais enfin c'est un livre qu'on peut lire aussi à l'âge adulte. Mais Kessel a ce rapport aussi à la vie animale sauvage, sa manière de présenter les animaux et de présenter aussi la vie des hommes avec le monde animal.
Oui, absolument, c'était quelqu'un de très sensible aux grands espaces, aux steppes, aux grands parcs nationaux qu'il a découverts donc dans l'Est africain quand il est allé au Kenya, d'ailleurs avec sa femme, Michelle O'Brien, sa troisième femme qui était irlandaise, et c'est quelqu'un qui était passionné, et qui avait été marqué également par le prix Nobel de littérature donné en 1952 à Hemingway, et en 1962 pardon, et qui était parti un petit peu presque sur une trace également écologiste avant l'heure et animalière après Le vieil homme et la mer, et donc Kessel était fasciné par ces grands espaces, et donc il a écrit Le Lion, qui est un roman pour les jeunes, mais qui est un roman également d'amitié entre une jeune britannique et donc est la fille du gérant d'un parc national, Patricia, et d'un lion. Et ça donne un livre pratiquement philosophique. Donc c'est un roman d'aventure, mais c'est aussi un livre d'éthique sur la place de l'homme dans l'univers.
Comment se passent les dernières années de Kessel? Est-ce que sa littérature, ses romans sont toujours appréciés dans ces années 1960 qui voient aussi des grandes batailles littéraires? Il y a le marxisme, on a les hussards, il y a les existentialistes autour de Sartre. Lui ne semble pas rentrer dans ces écoles, ou du moins il se place au-dessus de tout ça, il reste Kessel sans rentrer dans ces débats un petit peu parisiens des questions littéraires.
Oui, alors d'abord, c'est un écrivain qu'on peut qualifier d'engagé, parce qu'il dénonçait, évidemment, par ses écrits, il a dénoncé, et c'était l'un des premiers, le camp de concentration de Dachau dont je parlais, après avoir d'ailleurs croisé Hitler lors d'un reportage en Allemagne, mais surtout après avoir été renseigné par des membres, des juifs allemands, des membres de la pègre de Berlin. Et en même temps, il a aussi été l'un des premiers à dénoncer les violences faites aux femmes. Donc il a écrit des articles là-dessus. C'était le premier également à faire connaître les alcooliques anonymes dans les années 1960. Donc c'était quelqu'un en avance sur son temps et qui était aussi visionnaire, comme Romain Gary d'ailleurs. On a deux romanciers français qui étaient en avance sur leur temps. Et en même temps, Kessel ne voulait pas appartenir à une chapelle. C'est quelqu'un qui doutait, c'est quelqu'un qui aimait séduire intellectuellement, mais qui aimait également se laisser convaincre, qui n'aimait pas aller voter. D'ailleurs, il disait, la seule fois que j'ai voté, c'est à l'Académie française. Et il voulait pas être étiqueté ou encarté avec un parti politique. Donc, il voulait voir, rendre compte, rapporter en tant que « to report », parce que le verbe anglais donc a donné le mot « reporter ». Et donc, il était là, au milieu du monde. Et d'ailleurs, c'est le titre d'une de ces compilations de plusieurs recueils qui s'appelle « Témoin parmi les hommes ». Qu'est-ce que Kessel était d'autre qu'un témoin parmi les hommes? Un témoin engagé certes, mais un témoin quand même, à hauteur d'homme, à hauteur de la nature, et pour lui c'était une manière aussi de s'engager.
Merci beaucoup Olivier Weber d'avoir évoqué pour Conflit et cette vie de Joseph Kessel, ou ces vies de Joseph Kessel. Je rappelle le titre d'un de vos ouvrages, mais qui est consacré à Kessel, le dictionnaire amoureux de Kessel, qui est paru chez Plon. Et comme à chaque fois, nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble des ouvrages de nos invités sur le site internet de Conflit. Et puis vous préparez, je crois, un livre sur l'Ukraine.
Oui.
Voilà, donc qui paraîtra aussi, auquel nos auditeurs pourront se référer. Merci beaucoup d'être venu à notre micro.
Merci à vous.
Merci pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions de notre série d'été consacrée aux grands reporters et aux voyageurs sur le site internet de Conflit, sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.